Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 1000 questions à la foi, votre émission chrétienne qui permet d'éclairer le contenu de la foi, de mieux comprendre les Écritures ou de percer les méandres de notre vie spirituelle. Après avoir été banni pendant les 30 Glorieuses, le terme de réparation opère un retour en force. Aujourd'hui, un bonus réparation, une aide financière, incite les citoyens à faire réparer un appareil usagé. Dans la vie spirituelle aussi, quand une église a par exemple été profanée, le curé dit une messe de réparation. Mais quand il s'agit des êtres humains et de nos vies, comment aborder cette question ? Depuis le rapport de la CIAS, des commissions de reconnaissance et de réparation sont au service des victimes d'abus et de violences sexuelles dans l'église. Pouvons-nous tout réparer dans nos vies et dans celles des autres ? C'est la question que je pose à mon invité du jour, Isabelle Le Bourgeois, psychanalyste, religieuse auxiliatrice et autrice d'un essai qui paraît le 1er février aux éditions Albert Michel, Vivre avec l'irréparé. Bonjour Isabelle Le Bourgeois.
Bonjour à vous, Jean.
Pourquoi vous êtes-vous intéressée à cette question de la réparation de l'irréparé ?
Ça, c'est une longue histoire, dégoûtante, hein, voilà, à la fois dans mon cabinet de psychanalyste, à la prison pendant longtemps, comme aumônier de prison, et puis de tout ce qui se passe dans l'Église. Faire le tri entre l'irréparable et l'irréparé, déjà, me paraissait un élément important, pas confondre les deux. Parce que quand j'ai commencé avec ce thème, les gens me disaient « Ah, l'irréparé, oh mais ça c'est irréparable !» Bon, et c'était étonnant de voir la confusion. L'irréparable, c'est l'irréparable. La mort, l'accident, l'événement qui a eu lieu, c'est irréparable. Ça a eu lieu, ça a eu lieu. Et puis, l'irréparé, les conséquences, les traces de cet irréparable en nous. Voilà. Qu'est-ce que nous en faisons? Comment nous les vivons? Et je me suis rendu compte que tout le monde a plus ou moins envie de mettre du baume ou d'oublier. Voilà, hein. C'est irréparable, cette incursion, j'allais dire, de l'accident, du mal, de la souffrance, etc. Bon, l'abrupte de la vie, quoi, dans nos vies, et de ses conséquences, on a envie de l'effacer, on a envie de remettre un coup de peinture et de repurifier le contexte. Voilà. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà. C'est pour ça que c'est né.
Est-ce que finalement, c'est pas cet irréparé qui nous fait le plus souffrir encore que l'irréparable ? C'est-à-dire, il y a eu cet événement traumatique, mais ces traces dans notre vie.
Bien sûr, c'est toutes les traces qui restent. Hein. La mort d'un enfant, la perte de quelqu'un donc, qu'on aime, la maladie qui vous cloue, nous ou les autres, bref, des malheureusement, on peut le dire comme ça dans l'Église, mais enfin, des agressions de toutes sortes qui ont eu lieu et qui laissent des traces absolument indélébiles. Bon, alors, quand je dis indélébiles, les traces sont là. Après, qu'est-ce qu'on en fait ? C'est ça, vivre avec l'irréparé. Hein ? C'est pas un traité sur l'irréparé, c'est un traité sur vivre avec l'irréparé. C'est-à-dire, comment on fait avec ça ? Et comment on essaye de ne pas écouter les mauvaises sirènes qui peuvent clamer des choses autour de nous qui sont, à mon avis, pas aidantes du tout. Hein, voilà, comme la société ou quelquefois dans l'Église.
Alors, quelles sont un peu ces mauvaises sirènes, si on regarde un peu plus précisément ?
Par exemple, dans la société, on nous dit tout est réparable. Hein, voilà. Donc, on va comparer l'humain à un appareil, d'une certaine façon. Et puis, même, non seulement tout est réparable, mais on peut même effacer le temps. Hein, voilà, les cosmétiques, la gym, le yoga, les trucs, on repousse l'âge, bref. Voilà, comme si le corps ne pouvait pas vraiment porter de traces du temps qui passe, quoi. Comme si on pouvait se réveiller à 50 ans comme avec un corps de 20 ans. Bon, et cette espèce d'illusion que le temps ne nous traverse pas, donc finalement qu'il n'inscrit rien en nous. Parce que c'est ça, la traversée du temps et nos rides, c'est l'inscription du temps en nous. Bon, eh bien, c'est comme si ça n'existait pas. C'est une vaste fumisterie. Bon, parce que évidemment que ça laisse des traces en nous, voilà. Et moi, je me rappelle les gens qui me disent toujours : ah, est-ce que vous avez des recettes ? Est-ce que vous avez des recettes ? J'ai pas de recette, moi. Non, il n'y a pas de recette pour ça, voilà. Et puis, dans l'Église, il y a cette espèce de. D'abord, il y a une honte sur la blessure de ces dernières années. Il y a quand même une honte, j'allais dire un peu de l'ensemble, hein, de tout le monde. Bon. Mais peut-être que cette honte-là, elle n'est pas suffisamment explicitée, dite, verbalisée, j'en sais rien. Et là aussi, moi j'ai le sentiment, bien souvent, avec des responsables d'église, mais pas que, hein, que on sujet suivant, quoi. Voilà, on en a déjà assez parlé, sujet suivant. Et les traces-là, c'est comme si on ne voulait pas les entendre, on ne voulait pas les voir, hein. Récemment, une de mes patientes m'a dit, bon, bah, dans ma communauté, on m'a dit, bon, bah, ça suffit comme ça maintenant, les séances de psychanalyse, t'en as eu assez, ça coûte trop cher, à dégager. Mais c'est pas possible, ça. Je veux dire, au nom de quoi on va dire à quelqu'un, bon, écoute, c'est fini, t'en as eu assez, qui va juger de ça ? Voilà.
Et justement, dans votre livre, vous faites référence aussi à cet art, la japonais du kintsugi, mm-hmm. qui permet de restaurer des objets cassés mm-hmm. en mettant en valeur les fêlures avec de l'or. Mm-hmm. Et en fait, est-ce que c'est pas un peu utopique aujourd'hui de croire que on va pouvoir sublimer ces fêlures dans nos vies?
Oui, je pense que à la fois cet art est magnifique, bon, mais ça s'applique à des objets. Et sur les objets, c'est tout à fait compréhensible et très beau. Bon. Mais c'est comme si, comment dire, appliqué à l'humain, on lui faisait croire que la blessure qu'il a va être presque un porte-drapeau ou quelque chose qu'il va falloir regarder en disant, vous allez voir, regardez comme c'est beau maintenant, c'est tout en or, quoi, cette affaire-là. Bon. Et que ça va cacher, finalement, j'allais dire la véritable fêlure, la vraie souffrance, la vraie brisure dans la vie. Bon, c'est comment est-ce qu'on peut arriver à vivre en n'ayant pas honte des blessures que nous avons? Voilà. Alors il ne s'agit pas de les étaler toutes les 5 minutes et de dire moi je suis un grand blessé de la vie. Bon, mais comment dire, on est tous vulnérables, tous des blessés, y compris Jésus. Et pour moi, ça, c'est important que cette dimension-là, j'allais dire, de l'incarnation manifeste. Alors ça, j'y tiens, mais très fortement, manifeste, j'allais dire, la solidarité de Dieu avec sa création dans cette vulnérabilité inscrite. On est affecté, voilà. Notre vie nous affecte. Et pour pas qu'elle... pas faire de mauvais jeu de mots, mais pour pas qu'elle nous infecte, c'est important de regarder la manière dont c'est affecté, j'allais dire, avoir avec lucidité et puis avec d'autres. Faut d'autres là-dedans. Faut pas être seul avec nos blessures. Voilà. Il faut pouvoir les porter avec d'autres.
Alors, vous disiez, donc comment on fait? Donc, est-ce que c'est de les porter avec d'autres? Vous parlez aussi de Jésus qui les porte quelque part avec nous. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi, à nouveau, de spiritualiser en se disant que Jésus est là, qu'il les porte avec nous?
Alors, la manière dont je le dis, je pense, n'est pas spiritualisante. Jésus... quand il ressuscite et qu'il montre ses blessures, c'est pas simplement regardez, c'est bien moi le crucifié. C'est aussi je reviens vers vous avec la blessure qui m'a traversée. Voilà. Et elle est ineffaçable, cette blessure-là. Et je l'assume avec vous. C'est une manière de dire la manière dont il est revenu du séjour des morts. Moi, j'y tiens beaucoup à cette affaire-là dont je parlais déjà dans le Dieu des abîmes, bon, voilà, et dont je reparle ici. La mort et la résurrection de Jésus, c'est il passe par le séjour des morts et il revient avec les morts, mais les morts blessés. Hein, pas des morts, tout d'un coup, il est tout blanc, il n'a plus rien, il n'a plus de blessures, tout va bien, et la résurrection lave plus blanc que blanc. Bon, c'est pas ça dont il s'agit. Pour moi, hein, j'entends bien, hein, j'ai pas plus de prétention que ça, hein, Dieu seul sait de quoi il s'agit. Mais moi, tel que je le lis et dans mon expérience, c'est ça. C'est-à-dire que Jésus revient avec ces blessures-là en nous disant « ces blessures font partie de ton humanité ». Et c'est avec toi que je les porte, mais elles font partie de ton humanité et tu dois faire avec. Voilà. Et comment tu vas faire avec? Voilà. Et ça, il le dit souvent, en tout cas, il l'a dit, c'est pas en m'appelant Jésus, Jésus, que les choses vont se faire. Hein. Bon, c'est en étant véritablement, j'allais dire, dans le chemin de l'humanité qui te conduit à toi-même. Voilà. Hein. Donc on est renvoyé à soi-même. Et là, je crois qu'on peut pas être seul. C'est lourd à porter une vie. Mmh. C'est lourd. Alors, il y en a qui sont beaucoup plus lourdes que d'autres. Ça, c'est vrai. Mais c'est lourd à porter une vie. Il faut quand même être honnête. Bon. Et au bout d'un certain nombre d'années, on se rend compte que c'est quand même pas évident du tout. Bon. Comment on fait ? Voilà. Et je crois que sans les autres, sans cette fraternité, j'allais dire incarnée, où on peut reconnaître et nommer ensemble nos blessures et apprendre à les vivre ensemble, je crois que c'est extrêmement difficile sinon. Voilà.
Est-ce que, comment vous percevez les choses là par rapport à justement c'est cette question dans l'Église aujourd'hui, est-ce que nous la portons, la question des victimes d'abus et de violences sexuelles, est-ce que nous la portons suffisamment ensemble ?
Je ne pense pas que ce soit encore vraiment le cas. Bon, pour des tas de raisons. D'abord parce qu'il y a encore un déni d'un certain nombre qui disent, bon, oui, d'accord, ça a eu lieu, mais enfin, pas tant que ça. Bon. Mais aussi parce qu'on évacue facilement ce qui nous fait honte, comme je disais tout à l'heure, pour la honte, mais aussi parce qu'on trouve des remèdes un peu immédiats, du style, on va prier ensemble, on va actionner, entre guillemets, le sacrement du pardon, et puis les choses vont aller mieux. Et quand on dit à une victime, vous savez, vous irez beaucoup mieux si vous pardonnez à votre agresseur, mais on est où ?
Merci Isabelle Le Bourgeois. Je rappelle le titre de votre livre, Vivre avec l'irréparé, qui paraît le 1er février aux éditions Albin Michel. Un grand merci à tous d'être fidèles à 1000 questions à la fois. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.